Le Christ est venu mettre Dieu dans la souffrance. Comme je l'ai dit au début, cet échange entre Jésus et ses disciples est le pivot de l'évangile de Marc. Jusqu'à ce moment-ci, Jésus enseigne, il se fait accueillir par les apôtres dans les villages où il doit aller, il guérit beaucoup de gens, des possédés et des malades. Et tout le monde admire ce qu'il fait, pas tout le monde, déjà dans son village, pas tout le monde. Mais Jésus ne parle absolument pas de la croix. C'est comme s'il avait attendu ce moment où les apôtres le reconnaissent. Le pivot de l'évangile, c'est quand, au nom des 12, Pierre s'exprime en disant « Tu es le Christ ». Tu es le Messie, celui que nous attendons, celui que le peuple attendait depuis longtemps. Alors, Jésus pose deux questions. Pour dire des gens, qui suis-je? Et puis pour vous, qui suis-je? Et il y a un décalage entre les réponses. Pour dire des gens, ah oui, Jésus est un prophète. Peut-être Élie qui est revenu, qui annonce la fin des temps. Peut-être Jean-Baptiste, il peut se ressembler un peu, Jésus et Jean-Baptiste, pour qu'on croit que Jésus est Jean-Baptiste ressuscité, comme les rois de Troyes. Mais personne ne dit qu'il est le Messie attendu. Alors, je voudrais insister sur le fait que quand Jésus pose la question « Pour vous, qui suis-je ?», cela témoigne d'une grande proximité avec les apôtres et d'une grande confiance. Vous savez, nous portons tous en nous-mêmes la question, hein, pour les autres, qui suis-je? Et nous n'osons pas, je n'ose pas demander à monsieur, pour vous, qui suis-je? Il va donner une réponse officielle quand vous êtes célébrant ou prêtre, vous êtes un Jésus. Mais nous ne connaissons pas encore assez pour qu'il puisse me dire s'il a d'amitié pour moi ou pas. Oh, oh, comme frère dans le Christ, oui, d'ailleurs, c'est pas vous que je mets en cause, je suis calme ici. Mais oser demander à quelqu'un, pour toi qui suis-je, c'est la relation de confiance, c'est là. On ne s'expose pas à une réponse neutre ou dépréciative. Donc, Jésus a senti que c'était le moment où il pouvait poser la question à ses apôtres et passer à la réalisation de sa mission. Alors, c'est intéressant pour nous de voir que Jésus a pris le risque de ne pas être compris. Puisqu'il n'y a que 12 hommes, et quelques femmes qui suivaient, qui l'ont reconnu comme le Messie, et pas tout le monde. Et Dieu a pris le risque de ne pas être compris. Et nous devons nous le rappeler quand notre société, par la sécularisation, s'éloigne de Dieu sans même s'en rendre compte. Dieu a pris ce risque. Alors, Jésus annonce, dès qu'il est reconnu, qu'il doit être, il doit souffrir, être rejeté et être tué. Et au fond, ce n'est pas tellement étonnant, parce que dès le début de son ministère, il y a des gens qui s'opposent à lui. Donc, les gens de son village ont voulu le précipiter en bas d'une falaise, mais les pharisiens, les scribes, c'est tout un club, là, les hérodiens aussi, ils en veulent à Jésus. Jésus a du succès qu'eux voudraient avoir à sa place. Et puis Jésus, il met en cause leur manière d'imposer leur pouvoir en faisant appel à la loi de Moïse, ou en faisant appel au pouvoir politique comme les hérodiens. Et c'est un contestataire, il est dangereux, et la pression contre lui monte, et ils pouvaient prévoir qu'ils viendront à bout de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il annonce qu'il doit être tué, et 3 jours après, il ressuscite. Ça, c'est inédit. Ça ne s'était jamais entendu. Aucun prophète n'a annoncé « Je dois mourir et ressusciter ». On se demande quelle intimité il y a entre Jésus et son Père. Cette confiance que après 3 jours, après un temps d'épreuve, il va ressusciter. Il l'annonce. Et Saint-Pierre réagit fortement à cette annonce. Saint-Pierre nous représente tous, hein. Nous croyons Jésus le Messie, et en même temps, nous nous demandons parfois, comme les Juifs, si Jésus est vraiment le Messie. C'est-à-dire que le Messie veut apporter le gouvernement de Dieu sur la terre, hein. Pas une théocratie autoritaire comme celle qu'on installe en Afghanistan, mais on voulait attendre que l'occupant ne soit plus là, quoi. Que le peuple d'Israël soit vraiment le peuple de Dieu, prospère et rendant gloire à Dieu, tout ça, c'est rien de ça qui se passe. Mais nous aussi, nous avons nos attentes sur Dieu, n'est-ce pas ? Nous voudrions que Dieu, en créant une potion magique, ou en envoyant des anges, ou d'une manière autre, fasse disparaître l'injustice de la terre. Et ce n'est pas le cas. Et alors on se demande, ben, est-ce que tu es vraiment Dieu ? Et le Messie n'a plus aucun pouvoir politique. Jésus, on a voulu le faire roi, il s'est surtout enfui. La responsabilité politique, c'est comme la responsabilité médicale, c'est la nôtre. C'est à nous de faire que la justice règne sur terre. Et donc, Pierre est déçu. Et nous sommes parfois déçus de Dieu aussi. Et Pierre ne pose pas une question là, mais il est furieux. Il croyait suivre un Messie qui allait rétablir tout, et alors il serait son premier ministre, je ne sais pas. Et alors il dit qu'il va souffrir, être rejeté. Ça lui monte à la gorge là. Et il, comme nous disons entre nous, il engueule Jésus. Donc on a trouvé d'autres mots ici pour dire ça. Il lui fit de vifs reproches. Il suit Jésus, puisqu'après Jésus se retourne et dit, enfin, Jésus, tu dérailles. Ça ne va pas ce que tu racontes. Ce n'est pas ça le Messie. Et Jésus s'apprête à le corriger simplement comme un ami, mais en se tournant, il voit tous ses disciples. Il dit, si l'erreur de Pierre devient l'erreur de tous, c'est grave, moi je ne peux pas accomplir ma mission. Donc, lui aussi, il interpella vivement Pierre. Des bons mots pour dire qu'il le ressaisit vigoureusement. Et donc, il commence à annoncer sa passion et sa résurrection. C'est un mystère pascal. Alors, comme je le disais au début, le Messie, c'est celui qui vient être Dieu dans la souffrance. Si nous ne reconnaissons pas une présence de Dieu dans la souffrance, le monde nous sera toujours insupportable. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aimer la souffrance, il ne faut pas la désirer, il ne faut pas la chercher. Mais le mal fait que les enfants de Dieu souffrent. Et en allant sur la croix, Jésus est allé être la présence du Père dans la souffrance pour nous. Voilà. Et depuis 2000 ans, des gens regardent la croix et se laissent toucher. Ils sont changés, et acceptent et avancent, et acceptent d'aimer leur prochain au lieu de se plaindre, de souffrir. Et c'est assez extraordinaire en fait. Donc le défi, c'est d'apprendre à accueillir dans la souffrance, dans les épreuves qui durent. Le Covid, on n'en est pas encore sorti hein, au niveau planétaire, mais d'apprendre à recevoir par Jésus que la vie est présente dans la souffrance. La vie de Dieu, une vie qui se donne dès maintenant, c'est Dieu qui se donne, et une vie qui se promet. Parce que l'horizon de la mort humaine n'est pas le dernier horizon pour l'homme. Voilà, donc nous sommes invités, au moins pendant cette semaine, hein, à ce que lorsqu'une contradiction, une frustration, une angoisse, une souffrance nous tombe dessus, nous remercions Jésus pour sa passion. Faisons un petit retournement, un petit pivot pour remercier Jésus d'être venu dans sa passion et sa résurrection. Voilà, oser faire cette démarche-là, c'est ça qui nous différencie de ceux qui n'ont pas la joie, le bonheur de connaître Jésus comme les 12 êtres différents des autres, non pas qu'on puisse en être fier, on n'a rien fait pour que Jésus meure sur la croix, Mais c'est notre trésor que nous avons à partager au monde. Et nous demandons cette grâce par Marie, qui a eu cette force d'être présente à la croix, de nous aimer nous aussi, alors que nous les hommes, nous massacrions son Fils. Et nous apprenons d'elle aussi, donc à accueillir Dieu dans